Les cours du Collège de France, Claude Grison, cher Avenir commun durable.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des zones humides. Tout d'abord, leur importance, on va le voir, parfois sous-estimée. Leur vulnérabilité également, notamment vis-à-vis d'un sujet qui va beaucoup nous préoccuper ce matin, les espèces exotiques envahissantes. Alors, comme d'usage, dans un premier temps, je donnerai des éléments de contexte, en fait, sur l'importance des zones humides et cette menace espèces exotiques envahissantes. Puis, j'aborderai le problème des solutions de gestion des zones humides envahies par les espèces exotiques envahissantes. Pour finir sur un côté un petit peu plus positif, montrer aussi qu'il y a de l'espoir. Mais au-delà des solutions, il est bien évident que le problème essentiel, c'est la prévention. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Arnaud Albert, qui est présent en bas de l'amphi, et qui représente l'Office français de la biodiversité, chargé de mission de recherche à l'OFB. Et donc, il prendra le relais dans une heure pour parler justement des méthodes de prévention pour essayer d'éviter de continuer à favoriser la prolifération de ces espèces exotiques envahissantes. Alors, pourquoi lier ce problème aux zones humides, parce que vous allez voir que les zones humides sont à la fois extrêmement importantes pour nous, pour la biodiversité aussi, mais elles sont très vulnérables vis-à-vis de ce problème des espèces exotiques envahissantes. Pour bien se comprendre, qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par zone humide ? Si on se réfère à la convention de Ramsar, une zone humide, c'est un milieu où le fonctionnement écologique est principalement contrôlé par l'eau. Ainsi, des exemples qui vous parleront très rapidement, donc de zones humides, les marais, les tourbières, les lagunes, les mangroves, les deltas, les plaines humides font partie des exemples bien connus de zones humides. Parlons quelques instants de leur importance. Alors tout d'abord, elles sont reconnues très largement comme refuges de biodiversité, puisqu'elles figurent parmi les écosystèmes qui sont les plus riches biologiquement, et ceci à l'échelle mondiale, malgré une surface relative occupée qui est assez petite. Donc un chiffre qui permet de le préciser, on considère aujourd'hui que les zones humides couvrent 6% des terres émergées, alors qu'elles abritent une fraction très importante des espèces mondiales, et ce de façon assez large. Elles ont tout d'abord une forte diversité végétale, on y reviendra, une concentration d'invertébrés aquatiques impressionnante. Ce sont aussi des habitats critiques pour les amphibiens, les poissons, les oiseaux d'eau et de nombreux mammifères. Elles ont aussi une forte diversité microbienne qui est traitement liée à leur gradient assez particulier hydrique et redox, où il se passe des tas de transformations chimiques. Alors, les écosystèmes humides servent souvent de zones de reproduction, de nurserie, de refuges saisonniers et également de haltes migratoires. Ce sont également les plus grands réservoirs de matière organique carbonée, sujet qu'on a souvent abordé lors des séminaires précédents. Mais les zones humides, abritent des espèces très spécialisées et endémiques qui vont conduire à une matière organique extrêmement importante. Je vais illustrer ce propos à l'aide d'un exemple bien connu, celui des tourbières. Vous voyez des photos ici de tourbières en Irlande qui sont très abondantes. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent 3% des terres émergées, mais elles stockent davantage de carbone que l'ensemble des forêts mondiales. Donc vous en voyez l'importance. Alors pourquoi ? Pourquoi cette particularité, ce stockage important en matière organique ? Ceci est dû à leur situation, notamment hydraulique, puisque quand on est face à une tourbière, les pores du sol sont complètement saturés en eau. C'est leur particularité. Du coup, cette saturation en eau va limiter l'oxygénation du sol. On parle même d'anoxie. Ainsi, qui dit faible quantité d'oxygène, dit micro-organismes aérobies, donc en faible activité. Donc ils ont du mal à décomposer avec efficacité cette matière organique. Donc tout ceci va ralentir la décomposition de la matière organique, la minéralisation, la respiration microbienne, l'oxydation tout simplement du carbone organique. Donc la matière organique va s'accumuler et former ce qu'on connaît bien, la tourbe. Voilà, donc contrairement à une idée fréquente, vous voyez, les tourbières ne sont pas dépourvues de décomposeurs, mais leur mécanisme de décomposition est donc ralenti. On sait aussi que cette tourbe a un caractère acide, donc on y reviendra aussi, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, une richesse en matière organique qui s'accumule dans ces milieux qui est extrêmement dense et importante. Les zones humides jouent aussi un rôle de régulateur des extrêmes climatiques. Ça devrait nous aider à réfléchir sur la nécessité de les préserver. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir, on va le détailler en plusieurs étapes. On va essayer de voir en quoi elles sont si importantes. Et on va voir que ça repose très principalement, en fait, sur leurs propriétés hydrologiques, géochimiques et, bien sûr, écologiques. Premier critère, eh bien, elles permettent d'atténuer les inondations. C'est quelque chose qui maintenant est bien documenté. Donc ces plaines inondables, eh bien, vont tout simplement absorber les surplus hydriques en période d'épisodes pluvieux intenses. Ça va un peu se comporter comme, je veux dire, des systèmes naturels qui vont stocker temporairement l'eau, ainsi ralentir les écoulements, limiter l'expansion latérale des crues, favoriser l'infiltration et surtout dissiper l'énergie hydraulique, à savoir bien réduire les hauteurs de crues, la vitesse des écoulements ou les dommages aux infrastructures. D'ailleurs, ce phénomène est suffisamment bien reconnu, étayé et démontré pour qu'aujourd'hui, la restauration de plaines pluviales soit intégrée à des stratégies européennes du risque d'inondation. Les zones humides sont aussi un soutien hydrique pendant les périodes de sécheresse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles se comportent un petit peu comme des réservoirs hydrologiques. Ainsi, pendant les périodes sèches, eh bien, elles vont restituer progressivement l'eau qu'elles ont stockée, elles vont maintenir les débits d'étiage, et puis elles vont soutenir donc les nappes phréatiques et limiter tout simplement l'assèchement des sols. Les tourbières en sont un exemple connu, hein. Elles ont une forte capacité de rétention en eau, donc elles vont pouvoir participer à la réduction du stress hydrique, au maintien des habitats aquatiques, donc en période de sécheresse, et tout simplement soutenir aussi les usages agricoles et écologiques. Les zones humides permettent aussi de réguler de façon thermique certaines situations locales. Ceci est assez facile à comprendre, tout simplement par évotranspiration. Donc elles vont garder une humidité ambiante, elles vont atténuer des îlots de chaleur, elles vont contribuer à faire baisser en fait les températures maximales. On avait beaucoup parlé en fait de l'inertie thermique de l'eau lors du deuxième séminaire, si vous vous souvenez. Donc elles vont vraiment jouer un rôle pour limiter ces températures maximales, bien sûr localement, et puis augmenter, c'est facile à comprendre, l'humidité atmosphérique. Donc elles sont un petit peu ce qu'on pourrait qualifier, c'est pas très scientifique, mais ça parle bien, des climatiseurs naturels. Les zones humides ont aussi un rôle important contre les tempêtes et les submersions marines. Ça aussi, c'est très documenté aujourd'hui. On l'admet facilement, puisqu'elles vont pouvoir absorber une partie de l'énergie des vagues, des surcôtes. C'est le rôle connu des mangroves, que vous connaissez très probablement, des marais salants, des lagunes, des herbiers côtiers, qui vont réduire l'érosion côtière, qui vont atténuer l'effet de la houle, qui vont limiter les dégâts en fait, des cyclones et des tempêtes. D'ailleurs, vous aviez peut-être entendu parler d'un tsunami dans l'océan Indien en 2004. Eh bien, des études ont clairement montré que les endroits où la mangrove existait toujours avaient limité les dégâts humains et matériels. Les zones humides, c'est aussi un stockage de carbone important. Donc j'en ai parlé, je n'y reviendrai pas, mais surtout pas oublier. Pensez à l'image des tourbières de tout à l'heure. Elles ont aussi un rôle pour essayer de limiter donc en fait les extrêmes climatiques, mais attention, c'est un petit peu comme ce qu'on a développé à propos du sol donc la semaine dernière, ce sont des équilibres biologiques qui peuvent être fragiles, donc si elles sont perturbées, elles peuvent jouer le rôle inverse, c'est ce qu'on appelle la rétroaction climatique. Certaines peuvent être amenées du coup à dégager du méthane, Et en cas d'incendie, bien sûr, comme ce sont des réservoirs extrêmement riches en matière carbonée, peuvent être source en fait, de gaz carbonique. C'est quelque chose qui avait été bien mis en évidence en 2015 lors d'incendies sur des tourbières en Indonésie. Donc attention toujours à ces équilibres biologiques naturels quand les activités humaines les perturbent. Enfin, ce sera un petit peu la conclusion de tout l'impact positif et important de ces zones humides. Eh bien, elles favorisent la résilience socio-économique à différents titres, puisque, on l'a vu, elles nous permettent de nous adapter en période de dérèglement climatique. Elles vont assurer une certaine sécurité hydrique. C'est un soutien aussi à des activités comme la pêcherie. Elles protègent les côtes, on en a parlé. Elles vont stabiliser les sols et tout simplement, elles vont permettre de maintenir la biodiversité. D'ailleurs, je fais aussi un lien avec donc, le séminaire de la semaine dernière. Aujourd'hui, elles font partie des programmes des solutions fondées sur la nature dans le cadre des politiques climatiques internationales. Voilà donc l'importance en fait, de ces zones humides. Malheureusement, bien sûr, il y a une contrepartie actuelle qu'il faut savoir aussi. Si elles fonctionnent voilà, comme des corridors biologiques, qu'elles permettent les relais migratoires, elles ont un rôle absolument essentiel, eh bien, elles disparaissent aujourd'hui 3 fois plus vite que nos forêts. On parle beaucoup de l'atteinte des milieux forestiers, mais c'est encore pire pour les zones humides. Ce sont aujourd'hui des hotspots d'extinction. Donc il faut le savoir, pourquoi ? Alors les origines sont communes à tout ce qu'on a partagé ces dernières semaines. Eh bien tout d'abord l'artificialisation des sols, la pollution, notamment les nitrates. Vous voyez l'eutrophisation ici en fait de ce réservoir d'eau. Donc la pollution au sens global, la surconsommation d'eau pour des activités agricoles intensives notamment, mais pas que. Et puis, bien sûr, bien le dernier aspect qui va nous intéresser aujourd'hui, moins connu, mais pourtant si important, c'est le développement de ces espèces végétales exotiques envahissantes. Alors, on peut peut-être se demander pourquoi. Eh bien, en fait, les zones humides, compte tenu de leurs perturbations, leurs changements hydrauliques permanents, en fait, sont des zones qui bougent beaucoup et qui sont des milieux favorables au développement d'espèces opportunistes, comme les espèces exotiques envahissantes. Donc, ces milieux qui sont malheureusement anthropisés, eh bien, qui sont fragmentés, qui sont artificialisés parfois, eh bien, sont des milieux qui conviennent à ces espèces exotiques envahissantes qu'on introduit maladroitement en dehors de leur habitat naturel et qui vont trouver un terrain privilégié pour se développer. D'ailleurs, d'un point de vue global, c'est un sujet important, vous le savez peut-être, vous connaissez certainement l'IPBES, on en a parlé déjà la semaine dernière, on en parle souvent, l'organisme international qui est un petit peu l'équivalent du GIEC, mais qui travaille sur la biodiversité, a fait valoir, a partagé quelques résultats, quelques indicateurs qui portent à réflexion. Depuis 1970, le nombre d'espèces exotiques envahissantes a augmenté de 70%. 85% de ces espèces exotiques envahissantes ont des effets négatifs, y compris sur la santé. Elles sont mises en cause dans 60% des extinctions biologiques et coûtent extrêmement cher. Donc mon collègue Franck Courchon, l'année dernière, je pense, a beaucoup partagé ses conséquences économiques, elles ont fortement augmenté, x4 ces 10 dernières années, et ça dépasse plus de 420 milliards de dollars par an. Mais quand on parle de coûts, il faut bien s'entendre sur les coûts. Il s'agit essentiellement des dommages causés par les espèces exotiques envahissantes à hauteur de 92%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si 80% des pays ont des objectifs politiques vis-à-vis de ces espèces exotiques envahissantes, malheureusement, seuls 17% ont une vraie législation qui est spécifique à ce problème. 45% n'investissent absolument pas dans la gestion de ces espèces. Donc cet indicateur est quand même assez critique. Il y a un défaut massif d'engagement et de mise en œuvre. Je pense que ça fait écho à beaucoup de problèmes actuels face à ces soucis donc, de prévention et de gestion des espèces exotiques envahissantes. Il faut voir aussi que le problème n'est pas simple parfois à comprendre, parce qu'il y a une forme d'hétérogénéité du problème. C'est-à-dire que seules quelques espèces vont être très répandues, se développer de façon anarchique, mais avoir une majorité des impacts. Donc l'interprétation n'est pas forcément très facile à lire. Parmi les espèces exotiques envahissantes les plus représentées, eh bien, ce sont tout d'abord les invertébrés, notamment eh bien, les insectes qui sont vecteurs de maladies infectieuses. Donc là, je vous reporte au séminaire qu'on a consacré notamment aux arthropodes vecteurs de maladies infectieuses. On a beaucoup parlé notamment d'Aedes albopictus, hein, le moustique tigre, à voir à quelle vitesse donc, il s'est introduit et installé donc, sur le territoire français, et la dizaine de virus qu'il est capable de porter. Donc un problème, bien sûr aussi, on en a moins parlé, mais le frelon asiatique, que vous voyez ici, hein, qui est donc une nuisance terrible pour les apiculteurs, mais pas que, vous le voyez ici en train d'attaquer donc une coque. Donc ça parle donc directement. L'exemple malheureusement connu des écrevisses américaines, que je me permets de rappeler, parce qu'il est une illustration de la maladresse humaine qui est absolument terrible. Donc si vous ne savez pas, peut-être, voilà, à la fin du 19e siècle, en fait, les écrevisses étaient atteintes d'une maladie qu'on appelle la peste des écrevisses. Et la pauvre idée qu'on a eue, eh bien, c'est d'introduire des écrevisses exotiques qui étaient capables de résister à cette maladie. Le bilan aujourd'hui, eh bien, c'est que ces écrevisses exotiques sont en train de décimer les écrevisses indigènes donc de nos rivières. Ces écrevisses donc exotiques sont en train d'envahir les cours d'eau et de déséquilibrer complètement en fait, les écosystèmes locaux. Voilà, donc c'est l'exemple qu'il faut retenir pour surtout ne pas reproduire ce genre d'erreur. Après les invertébrés, les espèces exotiques envahissantes les mieux représentées, ce sont les espèces végétales, en fait, et c'est de ce sujet que je vais vous parler maintenant. On a parlé un petit peu lors en fait, des séminaires précédents, notamment sur le séminaire qui était relatif à l'eau, hein, avec Eric Orsena, eh bien, de deux plantes aquatiques exotiques envahissantes, souvenez-vous, en fait, de la laitue d'eau, Pistia stratiotes. Vous avez l'exemple ici d'un contre-canal du Rhône, hein, dans le Gard, qui est envahi 6 mois de l'année en fait, par cette plante aquatique sur plus de 17 km de long, qui étouffe complètement la vie aquatique, qui gêne l'écoulement des eaux donc de ce contre-canal. Et puis l'autre exemple dont on a parlé, et on n'aura pas fini d'en reparler, la Jussidae, Ludwigia peploides, aussi, qui est extrêmement redoutable, qui a envahi une bonne partie du territoire français avec les mêmes nuisances que la précédente. Donc, je vous montrais une photo qui a été prise l'été dernier qui montre un petit peu le problème. Vous voyez ici Manta aquatica, donc la menthe aquatique, qui est une plante indigène dans le Gard, qui est sur une ripisylve, hein, donc une berge donc, de ce canal. Il faut savoir que la menthe aquatique est en souffrance, elle résiste mal au dérèglement climatique et dans la région du Gard, elle est sur la liste rouge des espèces menacées hein, et donc proposée par l'IUCN. Et on voit un petit peu ce qui se passe. On voit Pistia stratotes qui est en train en fait, de se déplacer et de recouvrir en fait, la menthe aquatique. Ça, c'est ce qu'on observait il y a 2 ans. Aujourd'hui, on ne la voit plus, mais ce qui arrive, c'est l'autre plante envahissante, la Jussidae, a complètement recouvert ces deux, se sert d'un tapis donc avec ces plantes aquatiques pour les recouvrir et proliférer. Alors quand on parle de ces plantes envahissantes, il faut voir de quoi il s'agit. Vous voyez ici un plan, vous voyez un titre d'échelle la main à côté, voir un petit peu le phénomène, la masse racinaire que ça représente. Donc en fait ce sont des plantes qui ont un gabarit absolument impressionnant. Pour vous montrer un petit peu les efforts de gestion, en fait, qui sont réalisés par certains partenaires. Je pense que nous partagerons tous les deux ce genre d'expérience. Je vous partage les efforts réalisés par la Compagnie nationale du Rhône chaque année sur ce contre-canal du Rhône. J'ai une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Donc, vous avez un engin amphibie qui pousse sans arrêt la laitue d'eau vers une grue de très grand gabarit. Il n'y en a que 2 dans la région Occitanie. Et donc, qui va récolter pendant six mois, donc cette plante aquatique envahissante. Donc, est en train d'évacuer un maximum d'eau, la transférer dans un camion, et en fait, toutes ces récoltes vont être ensuite transportées vers un site sécurisé, où on va attendre sa décomposition ou sa valorisation. On en a un petit peu parlé, on y reviendra. Des efforts colossaux d'un point de vue financier pour une entreprise, qui sont entre 80 et 100 000 euros par an pour ce site. Donc, vous voyez en photo, vous voyez l'ampleur de la situation. Alors, simplement, j'ai oublié de dire, parce que c'est assez spectaculaire, j'arrête la vidéo. Je vous ai montré, moi, ici, la plante aquatique envahissante, mais sur les berges, on en voit une autre, Amorpha. Une Amorpha qui est ici tout aussi envahissante et qui s'est installée sur les berges de la rivière, là aussi, pendant des kilomètres. Donc, on les retrouve partout. Celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, certains m'ont déjà posé la question tout à l'heure, eh bien, ce sont deux des 100 espèces considérées comme les plus nuisibles au monde selon donc l'analyse de l'IUCN, cette ONG internationale responsable de la biodiversité. Donc on va focaliser nos connaissances sur deux d'entre elles, bien sûr la renouée du Japon, connue de la plupart d'entre vous. Il n'y a pas qu'une, on devrait dire même les renouées exotiques. En tous les cas, celle-ci, vous la connaissez bien, donc Fallopia japonica, donc qui se développe donc là aussi sur les berges de nombreuses rivières. En fait, elle est envahissante au niveau mondial, mais très présente sur le territoire européen. On a toujours tendance à penser que ça se passe ailleurs. Non, elle est très présente chez nous. Et vous voyez, au niveau européen, avec une définition très large du terme, en Italie, en France, sur tout le territoire français, mais également au Royaume-Uni, donc en Scandinavie, jusqu'en Russie. Donc une répartition extrêmement étendue. Et puis une autre également, bien connue dans le sud de la France, Arundodonax, dont le nom familier porte à confusion, la quinte de Provence, qui laisserait supposer qu'elle est de Provence, hein, malheureusement pas du tout. Donc à l'origine, elle était en Perse, on l'a ramenée. Pendant des années, on en a fait des tas de valorisations, certes, qui avaient leur utilité. Aujourd'hui, elle est très problématique, donc on ne contrôle plus sa prolifération. Et elle est responsable, notamment, je vais me reprendre, le terme n'est pas exact, elle favorise le développement d'incendies l'été, quand certains automobilistes, par exemple, sont maladroits et jettent leur mégot sur l'autoroute qui est bordée de cannes de Provence. Donc, scénario, malheureusement, qui se répète chaque été. Mais ces nuisances vont au-delà. Je vous partage une photo qui est sur le parking du laboratoire, où cette canne de Provence n'a pas choisi la facilité, elle se développe sur le parking, hein, vous voyez le macadam, alors qu'elle a une prairie à sa disposition pour se développer. Elle a choisi d'aller donc envahir donc cette partie bitumée. Alors pourquoi ? Eh bien, les travaux du professeur Jacques Bessières, qui est présent ici, on l'ont montré, c'est-à-dire qu'elle se développe dans le sens d'un cours d'eau souterrain que nous n'avions même pas identifié. En fait, voilà ce qui explique le sens de son déplacement. Donc, on va beaucoup parler de ces espèces, du problème et bien sûr des solutions de gestion qu'on essaie de développer. Donc là, je vais vous présenter l'exemple de Fallopia japonica, donc la renouée du Japon, donc très répandue chez nous. Et je vais vous partager la réaction en fait, très spontané d'un technicien végétal chez nous, qui a l'habitude pourtant d'aller sur des terrains où les espèces exotiques envahissantes se développent. Donc c'est ses réactions spontanées, donc très directes, quand il arrive sur un site ou découvre un nouveau site où cette fameuse renouée du Japon s'est développée. Je vous laisse l'écouter.
En fait, c'est en venant à Olas qu'on s'est rendu compte, enfin, que je me suis rendu compte de l'ampleur de l'impact de la renouée sur la faune locale. Pratiquement toute la rivière d'ici, il n'y a plus rien de visible, ça envahit tout le bord de la rivière, mais d'une manière impressionnante, 4 mètres de haut, il n'y a plus rien qui pousse en dessous. Avant c'était un passage, vous pouvez se promener facilement, il n'y a plus rien, c'est la faune et c'est très très haut. Et c'est assez impressionnant, et c'est là où je m'en suis rendu compte que l'impact de la renouée sur la région, c'est catastrophique. En fait, non.
Voilà. Alors, maintenant, parlons un petit peu des techniques de gestion. Il y en a un certain nombre, je vais simplement résumer mon propos de deux techniques essentielles, et je m'abstiendrai de parler des techniques qui ont peu de sens, telles que les herbicides, même le glyphosate a été étudié dans le domaine, donc c'est sans commentaire. Parlons maintenant des techniques un peu plus naturelles, les deux qui sont principalement développées. Donc tout d'abord l'excavation des rhizomes, qui demande beaucoup d'efforts, qui est une technique qui a été déployée par nombreux gestionnaires de bassins versants. Donc des efforts mécanique, c'est extrêmement contraignant, c'est coûteux aussi. Et puis malheureusement, ben, tout fragment de racines qu'on peut oublier, qu'on peut laisser ou qui peut échapper va être source de reprise, donc c'est particulièrement décourageant. On s'est appuyé, nous, sur une analyse de cycle de vie qui a été faite par donc, un organisme suisse qui avait montré que parmi toutes les techniques d'espèces exotiques envahissantes, notamment vis-à-vis des renouées du Japon, celle qui était le meilleur compromis en termes d'efficacité et de préservation de la santé de l'écosystème, eh bien, c'était des fauches répétées, intensives. C'était une étude assez théorique, mais qui montrait une limite. Il allait falloir tenir dans le temps. Eh bien, c'est précisément cette stratégie qu'on a essayé d'étudier avec toutes les précautions d'usage où là aussi, aucun fragment doit arriver pendant ces fauches répétées sous peine de reprise. Donc voilà, il faut le savoir. Maintenant, son développement est vraiment impressionnant. Certains la connaissent bien, je le sais parmi vous. Pour ceux qui la connaissent moins bien, il faut voir qu'un seul plant peut développer des rhizomes dans un rayon de 3 à 7 mètres. Vous voyez l'envergure d'un plant. Qui peuvent aller jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Donc, vous voyez l'excavation des rhizomes, ce que ça représente. Donc, on a vécu, on a partagé des expériences de cette stratégie assez conventionnelle d'extraction de rhizomes, et on a partagé aussi le découragement des gestionnaires face à cette technique, qui présente aussi les inconvénients que j'ai exposés. Vous imaginez, il n'y a pas de discernement quand on arrache les rhizomes, on arrache tout. Donc, je vais maintenant vous partager le défi de ces fauches répétées qui ont été déployées pendant plusieurs années, qui continuent à l'être, avec le défi qui était vraiment en face de nous. Cette technique pouvait épuiser les renouées du Japon à condition de tenir dans la durée. C'est vraiment ce qu'il faut accepter au départ. Donc, c'est quelque chose qui a été réalisé sur un îlot de biodiversité, une laune, c'est-à-dire un ancien bras secondaire du Rhône, donc qui est très humide et qui est très favorable pour le développement de ces renouées. Ben maintenant, il n'y a plus que ça. Donc, c'est très, très contrariant. D'une part, comme l'expliquait le collègue tout à l'heure, eh bien, les renouées ont une telle densité qu'elles étouffent complètement la biodiversité. Il n'y a plus aucune espèce en dessous. Mais se développe sur une laune, un bras secondaire du Rhône. Il faut savoir que ces endroits sont extrêmement précieux quand le niveau d'eau du Rhône monte, parce qu'on peut évacuer un excédent d'eau via ces launes. Quand elles sont complètement saturées par ces renouées du Japon, l'écoulement de l'eau n'est plus possible. Donc, elles ne peuvent plus jouer ce rôle de régulation du niveau d'eau du Rhône. Donc, les nuisances sont importantes et à différents titres. Donc, on a étudié des fauches, donc des parties aériennes, avec des solutions mécaniques mais innovantes pour qu'il n'y ait aucun éclat lors de ces fauches, qui continuent d'ailleurs toujours à être optimisées, ça n'est pas simple, et également des fauches manuelles. Et puis tout ceci a été rapatrié avec un maximum de soins donc vers le laboratoire. Mais il ne s'agit pas simplement de faire des fauches répétées et d'observer ce qui se passe. L'idée pour nous a été de faire un véritable suivi scientifique et étudier finement la réponse des renouées à ces fauches répétées, tous les 15 jours, en dessous du premier nœud, donc avec un protocole très strict. Et on a suivi tous les paramètres de croissance possibles, tels que le nombre de pousses, la hauteur des tiges, le diamètre des tiges. Et vous voyez ces résultats, au moins rapidement, que je vais vous présenter ici. Vous avez en orange le témoin, donc on n'y touche pas. Ça nous sert de référence. Et puis, vous avez en bleu ce qui bénéficie donc des fauches répétées tous les 15 jours. Donc, on voit au début qu'effectivement, dans les premiers mois, donc la renouée essaie de reproduire des pousses et elle va y arriver la première année. Certes, moins que le témoin, mais elle arrive au bout d'un moment à reproduire des pousses. Et puis, l'année suivante, on voit qu'elle a déjà un retard au nombre de pousses quand le printemps démarre. Et puis finalement, à la fin de la seconde année, elle n'arrive plus à produire de pousses. Alors bien sûr, c'est un retour sur 2 ans qui continue et qu'on continuera le plus longtemps possible pour être sûr qu'il n'y ait pas de reprise. On s'attend à ce qu'elle essaie de reprendre, ça c'est sûr. En tous les cas, on montre quand même qu'il y a un affaiblissement avéré sur le nombre de pousses, la hauteur et le diamètre des tiges, si on insiste lourdement. Voilà, elle n'arrive plus donc à faire de partie aérienne, elle n'arrive plus à faire de chlorophylle, donc elle va manquer d'énergie, elle va finir par épuiser les ressources qui sont présentes dans son système racinaire, même s'il est bien doté à la base. L'autre observation, bah, c'est de voir, quand on l'affaiblit, est-ce qu'il y a une reprise de la biodiversité ? Est-ce que les espèces indigènes arrivent à réapparaître ? Alors là aussi, ça fait partie d'un suivi assez soigné, qui permet d'observer tout ce qui reprend. Et on en mesure des indices de biodiversité du domaine, il y en a un certain nombre, qui sont tous similaires, qui conduisent au même résultat. Vous voyez en orange toujours ce témoin, dont l'indice de biodiversité est extrêmement faible, proche de zéro. Alors que sur les zones en bleu qui bénéficient de ces fauches répétées, l'indice de biodiversité est beaucoup plus élevé. Donc oui, les espèces indigènes arrivent à reprendre. C'est quelque chose qu'on suit avec attention. Et pourquoi ? Eh bien, quand on affaiblit une espèce exotique envahissante, la mauvaise tendance, c'est d'en voir une autre apparaître. Donc c'est quelque chose qu'on suit donc de très près. Voilà, tout ceci a généré des quantités astronomiques de parties aériennes dont il fallait trouver une utilité. Vous vous souvenez du raisonnement des solutions fondées sur la nature. Des solutions naturelles, certes, mais la définition de la Commission européenne va loin. Elles doivent être rentables. Il faut trouver une valorisation économique, mais qui ait du sens avec la solution naturelle, hein, donc qui ne va pas les polluer derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été trouvé ? Bah, déjà, il faut voir l'abondance des parties aériennes récoltées. En 3 mois, sur 500 mètres de l'Aune, on récolte 17 tonnes de parties aériennes. Donc il faut voir la gestion que ça demande derrière. Donc tout ceci a été inventorié, mais parallèlement à ces efforts de terrain, nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est de mieux comprendre la physiologie de ces espèces envahissantes. Mais pourquoi sont-elles si dynamiques ? Comment font-elles ? Et c'est toujours très intéressant. Et là, ce qu'on a trouvé, eh bien, qu'il s'agisse donc de la renouée du Japon, de la canne de Provence et beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, c'est un pourcentage de potassium extrêmement élevé, qui est très très supérieur à la moyenne. Et dans le cas des renouées du Japon, eh bien, ce côté vert magnifique des feuilles traduit un taux en chlorophylle 2 fois supérieur à la moyenne et donc un taux en magnésium très élevé. C'est une richesse minérale hors norme. Eh bien, tout ceci est inspirant parce que quand on s'intéresse à la chimie, eh bien, on sait que le potassium, le magnésium peuvent être extrêmement précieux. D'ailleurs, le magnésium est une ressource minérale qui, au niveau mondial, n'est plus si abondante que ça. Et pourtant, il fait partie, en fait, des espèces minérales nécessaires à la catalyse en chimie. Donc, l'idée était de se dire, est-ce que toutes ces parties aériennes récoltées massivement pour avoir du sens dans une chimie durable, écologique, en termes de valorisation ? Alors, on a transformé toutes ces parties aériennes en ce qu'on appelle, vous en avez l'habitude maintenant, des éco-catalyseurs, donc ces catalyseurs d'origine écologique. Et on a réussi à faire cristalliser par des procédés très très sobres ces éléments minéraux naturellement présents dans ces feuilles. Et ça a été une très belle surprise. On va commencer par la plus simple, Arundodonax, l'éco-catalyseur qui en dérive, donc la canne de Provence, a généré quasiment exclusivement du carbonate de potassium. Tous les chimistes le connaissent. C'est une base minérale très courante. On reparlera de son mode de production industriel. La méthode, je peux vous en parler tout de suite, en chimie, consiste à carbonater de la potasse. Et la potasse vient de l'extraction minière. Voilà, ça, en termes d'analyse de cycle de vie, c'est quand même très différent de récoltes de canne de Provence qui vont soulager la biodiversité. Et on a très, très facilement la production donc, de carbonate de potassium à partir de ces cannes de Provence. Donc c'est très inspirant. Mais avec la renouée du Japon, ça a encore été plus loin, ça a encore été donc, plus spectaculaire. On a fabriqué de l'oxyde de magnésium, très intéressant aussi, mais deux sels qui sont très rares. Ici, ça s'appelle de la ferschildite. C'est un carbonate mixte de calcium et de potassium. Je vous montrerai comment on le fait par voie classique, pétrochimique. C'est d'une difficulté majeure quand on y arrive. Avec la renouée du Japon, c'est la plante qui fait un travail merveilleux. Et une autre espèce, encore plus intrigante, parce qu'on n'a jamais réussi à la faire, un phosphate mixte de potassium et de magnésium. Alors peut-être que ça ne vous parle pas trop comme ça, mais on va voir que c'est extrêmement intéressant. Ce sont des espèces nouvelles pour un chimiste qui ont un potentiel assez extraordinaire. Phosphate, carbonate, ça veut dire propriété basique et non négligeable. Magnésium, qu'on a 2 fois, ça veut dire un caractère acide de Lewis. On a déjà un petit peu abordé ce sujet. C'est-à-dire que grâce aux plantes, dans une structure cristalline, dans un éco-catalyseur, on a deux propriétés. Une propriété basique et une propriété acide de Lewis. Les deux en un. Alors que traditionnellement, par voie pétro-sourcée, il faut faire deux catalyseurs en parallèle. Donc c'est une richesse extraordinaire que met à notre disposition finalement la renouée du Japon. Alors il est toujours bien de réfléchir en analyse de cycles de vie et de les comparer. Alors elle est qualitative, mais elle parle toute seule. Je vous montrerai donc comment le procédé conventionnel prépare ce carbonate double et comment on peut l'obtenir à partir des parties aériennes des renouées du Japon. Les matières premières, eh bien, dans le procédé pétro-sourcé conventionnel, j'en ai un petit peu parlé, il faut déjà faire K2CO3. Il faut aller extraire de la potasse ou la préparer par des procédés très énergivores et les carbonater, donc entre 250 à 350 degrés. Et il va falloir faire réagir sur carbonate de potassium à de la calcite qu'on va aller extraire dans des carrières qui ne sont pas innocentes non plus en termes d'empreinte environnementale. Il faut faire réagir les deux ensemble. Ceci nécessite 4 jours de chauffage à 585 degrés. Donc, vous voyez la difficulté pour faire cette fameuse Fairchildite. Quand donc on récolte massivement la renouée du Japon pour l'affaiblir, soulager la pression qu'elle exerce sur la biodiversité, on va traiter les parties aériennes en 4 heures à 550 degrés sous air par un procédé extrêmement simple qui va générer directement la Fairchildite. Donc il y a une telle différence de conditions en fait que c'est une source en fait de matière première pour repenser la chimie autrement, qui peuvent devenir la force motrice des efforts écologiques. C'est tellement productif et tellement plus simple, avec une empreinte environnementale tellement plus faible, que c'est extrêmement motivant pour le chimiste. Et qui s'y valorise cette Fairchildite en chimie, on verra un exemple derrière, peut, par la vente des produits, obtenir un soutien financier non négligeable pour continuer à tenir dans la durée, pour récolter, contrôler la prolifération des renouées exotiques. Voilà le modèle économique en fait, qui est déployé. Donc évidemment, l'empreinte environnementale n'a rien à voir. Dans le cas du procédé conventionnel, on a toutes les opérations minières qui en amont, qui sont extrêmement destructrices pour la biodiversité, qui produisent des déchets importants, des pollutions majeures qui sont très énergivores, alors que quand on fait l'effort de récolter les parties aériennes des renouées exotiques, eh bien, on contribue à la conservation de la biodiversité et ça permet de tenir dans la durée pour essayer de contenir sa prolifération. Donc bien sûr, l'empreinte carbone n'a rien à voir. Donc on en vient maintenant à la valorisation en fait, de ces parties récoltées avec beaucoup d'efforts, je peux vous l'assurer. Mais on obtient donc une poudre végétale qui est très très riche, vous l'avez vu, en potassium, en magnésium, et qui génère des espèces cristallines pour le chimiste qui sont à découvrir. Donc qu'est-ce qu'on a pu en faire ? Bien, on les a étudiés, on a étudié le potentiel pour synthétiser des molécules à haute valeur ajoutée. Donc là, je vous partagerai un exemple. Et je réserve beaucoup de suspense pour la semaine prochaine, où on en partagera énormément, où on aura une matinée un peu plus technique que d'habitude en chimie pour montrer le potentiel en fait, du milieu végétal quand on s'y intéresse et qu'on essaie de le préserver. L'exemple, c'est une molécule qui s'appelle le dihydrojasmonate de méthyle. Vous allez me dire, je ne connais pas trop cette molécule. Son nom commercial s'appelle Edion. Et c'est la société suisse Firmenich, qui est un très gros des parfums, qui un peu a le monopole de sa production. Donc c'est une molécule qui a une structure très précise et une odeur, il faut le dire, absolument géniale. Une odeur discrète de jasmin qui est irremplaçable et qui renforce les notes olfactives des autres parfums. Ainsi, on trouve cette molécule dans tous les grands parfums. Donc historiquement, c'est Dior d'ailleurs qui a eu l'idée donc, de l'utiliser dans Eau Sauvage. Donc cette molécule extrêmement précieuse est un incontournable des grands parfums. Donc historiquement, on allait la chercher dans des ressources végétales, mais il n'y a qu'une structure qu'on appelle cis en chimie, où ces deux chaînes carbonées sont du même côté, qui a la bonne odeur. Alors c'est hyper compliqué, parce qu'il y en a très 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 peu dans la nature. Donc le mode de production par extraction de la nature n'a aucun sens. D'autant plus que s'il y en a peu, ça veut dire qu'il faudrait consommer beaucoup d'espèces végétales, ça veut dire épuiser une espèce végétale, ça n'a aucun sens. Donc les parfumeurs ne font pas comme ça, ils le produisent chimiquement. La voie industrielle consiste à faire réagir deux molécules carbonées entre elles, et la transformation de ces deux molécules en cette molécule finale, c'est quelque chose qui est assez long et qui n'est pas simple. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait et le procédé qui est développé, qu'on a complètement repensé, qui n'a rien à voir avec le procédé de Firmenich, sera comparé après avec les procédés industriels, celui de Firmenich et des autres industriels qu'ils produisent, pour montrer l'intérêt, comment ces renouées du Japon peuvent modifier complètement la chimie. Déjà, on s'est appuyé sur deux matières premières qui peuvent être facilement biosourcées, produites à partir de molécules simples, de sucre, du glucose et du xylose. Le glucose, évidemment, très abondant, notamment dans la cellulose. Et le xylose, très abondant dans l'hémicellulose. Ce sont des déchets végétaux très courants. Il faut les faire réagir ensemble. Plutôt que d'aller chercher des bases très corrosives, dangereuses et d'origine pétrosourcée, eh bien, ce sont bien les parties aériennes de la renouée du Japon avec ces espèces chimiques nouvelles qui ont permis de catalyser cette réaction en une seule étape. C'est-à-dire que c'est plus puissant que les méthodes traditionnelles pétrosourcées qui nécessitent deux étapes. C'est donc extrêmement intéressant. Après, il a fallu faire ce qu'on appelle une isomérisation, faire bouger cette double liaison. C'est ce qu'on a réussi à faire avec un déchet, en fait, de la betterave sucrière, qu'on appelle donc la bétaïne. On a réussi à faire cette réaction donc, avec un déchet qui ne sert pas à grand-chose, qui a été donc extrêmement puissant. L'étape clé, l'étape la plus difficile de la synthèse est ici, c'est ce qu'on appelle chez nous une addition de Michael. Et là encore, en fait, les éco-catalyseurs qui dérivent de la renouée du Japon se sont montrés extrêmement performants et ont permis de contrôler la structure de la molécule comme on ne l'avait jamais réussi. Donc là encore, ça renvoie aux difficultés en fait, de l'industrie pétrosourcée qui n'a pas cette puissance avec des réactifs qui sont pourtant donc très critiquables en termes d'empreinte environnementale. Puis la dernière étape, on a réussi à la faire avec de l'eau, c'est-à-dire aucun intrant pétrosourcé, aucun solvant. Donc c'est une façon de repenser complètement la chimie. Et pour mesurer l'impact environnemental d'un procédé, il y a des outils qui sont clairement identifiés dans la littérature, ce qu'on appelle des indicateurs environnementaux. Et je vous montre très rapidement en fait, l'intérêt en fait, de travailler avec ces matériaux d'origine végétale, notamment la renouée exotique. On voit notamment par exemple ici ce qu'on appelle STI, c'est ce qui mesure la productivité du procédé, c'est-à-dire combien on est capable de produire en masse de composés dans un réacteur de volume donné pour un temps donné. Vous voyez que le STI le plus élevé, c'est grâce à la renouée du Japon. Alors, vous m'excuserez, c'est le nom de labo, hein, mais c'est la renouée du Japon. Donc on est en termes de productivité très supérieur aux produits pétrosourcés naturel. C'est quand même assez extraordinaire qu'on voit que la chimie peut être plus efficace quand elle soutient des efforts écologiques. La réaction d'isomérisation, on voit tout de suite, on le voyait d'ailleurs aussi ici, donc un drapeau rouge, c'est-à-dire que la société Takasago utilise des ingrédients pétrosourcés qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie, REACH, c'est-à-dire qui sont toxiques et écotoxiques. Procédé qui vient de la renouée du Japon, ne pose absolument aucun problème. Drapeau vert. L'addition de Michael, donc on voit par exemple, aucun problème particulier, mais on voit ici deux drapeaux rouges, deux procédés industriels, donc KO, un coréen, et IFF, présent en Europe, encore deux produits qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie. Bien sûr, la renouée du Japon a évité ces soucis. Et puis, quand on regarde un petit peu à la fin, la quantité d'énergie en fait, que sont utilisées dans ces procédés, on voit le procédé Firmenich, vous voyez, a consommé une énergie phénoménale. Le procédé le moins énergivore est celui qui a utilisé encore toutes ces solutions vertes. Donc, on voit que c'est effectivement extrêmement intéressant. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'au-delà de la consommation énergétique très faible grâce à ces ressources végétales, c'est aussi ce qu'on appelle en chimie le E-factor, c'est la quantité de déchets. C'est la masse de déchets par la masse de produits formés. Combien de kilos de déchets on va produire dans une réaction par kilo de produits formés? Eh bien, vous voyez, dans le procédé complètement vert à l'aide des ressources végétales, le E-factor est de 2. On va produire 2 kilos de déchets par kilo de produits formés. On dira quand même 2 kilos. Bon, attendez de voir, regardez le produit en fait, de firme niche, 409 kilos de déchets produits pour 2 kilos de produits formés. Et ça, c'est vrai donc, en fait, à chaque fois. Donc, on voit l'intérêt en fait, de repenser la chimie différemment. Donc, tout ceci est très clair. Ça vaut vraiment le coup de repenser la chimie et de la combiner avec ces solutions naturelles. On a gagné une étape, aucun solvant, 400 fois moins de déchets, vous l'avez vu, sur une seule étape. On valorise des déchets tels que les déchets de la betterave sucrière, aucun intrant toxique ou éco-toxique et un procédé beaucoup moins énergivore que les autres. Donc voilà, j'espère vous avoir motivé pour la semaine prochaine. Puisqu'on va revoir plein d'exemples en détail pour montrer la force de la nature en chimie. On peut vraiment revisiter, repenser complètement autrement. Dernière petite chose qu'il ne faut pas oublier, on l'a abordé lors du séminaire avec Eric Orsena, c'est que les espèces exotiques envahissantes ont montré d'autres propriétés que ces fameux éco-catalyseurs en chimie très performants. C'est leur capacité à dépolluer l'eau, mais sous une forme inoffensive, hein, souvenez-vous. En fait, ces plantes sont broyées sous une morphologie donc adaptée. Et en fait, cette poudre végétale a une affinité pour plein d'éléments métalliques qui sont dispersés malheureusement dans l'environnement en grande quantité. Donc le principe, vous vous souvenez, on prend une eau qui est contaminée en éléments métalliques, on la fait passer donc sur cette poudre végétale qui va se comporter comme une éponge à métaux, les séquestrer, les absorber. Et quand on a bien travaillé, on peut rejeter l'eau en remplissant aux normes de rejet. C'est une méthode extrêmement performante qui a été réalisée par tout ce que vous voyez en bleu, donc des métaux de transition qui sont extrêmement précieux, donc qui sont en voie de raréfaction ou soumis à un contexte géopolitique extrêmement délicat, mais qui peuvent être aussi toxiques, on en parle quand même pas mal en ce moment, le cadmium, le plomb, l'arsenic, ou des métaux aussi donc extrêmement recherchés, tels que les terres rares. Donc on voit un petit peu les services que peuvent rendre en fait, ces poudres végétales et donc qui encouragent à faire des efforts sur la gestion de ces plantes exotiques envahissantes. Donc ces poudres végétales ne sont pas là que comme des systèmes très polluants des éléments métalliques, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on avait montré aussi, et donc je le rappelle brièvement, qu'elles sont capables de capter les polluants organiques, cette fois-ci non plus métalliques émergents, très problématiques, tels que des filtres solaires qu'on a utilisés pendant des années dans les crèmes solaires. Aujourd'hui, on a oublié, parce qu'en fait, ce sont des molécules toxiques pour nous et bien sûr pour l'eau, pour l'environnement, tels que ces deux-là, oxybenzone et octocrylène. Donc, on arrive à capter dans l'eau en grosse quantité. Des pesticides donc très stables, hein, on parle aujourd'hui de polluants éternels, tels que la chlordécone ou le lindane, donc en fait des insecticides ici chlorés qui persistent très très longtemps dans l'environnement, qui se dégradent difficilement, donc on peut capter avec beaucoup d'efficacité. Et puis aussi des herbicides, malheureusement toujours très utilisés dans les cultures intensives. On avait vu ici l'amétrine et le diuron, qui sont interdits en Europe depuis quelques années à cause de leur toxicité, mais qu'on utilise toujours ailleurs, et malheureusement toujours en territoire ultramarin, notamment pour la culture de l'ananas, et qui polluent complètement les rivières et finalement les lagons de ces territoires magnifiques tels que la Polynésie française. Donc vous voyez un petit peu en fait, le panel de valorisation qui se cache derrière les efforts de gestion de ces espèces exotiques envahissantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.